Ok, donc on va reprendre rapidement le cours de la semaine dernière qui n'était pas très facile. Donc comme j'ai vu que ça avait un peu de mal à passer, bon, bah au Hacham, on a compris un petit peu. Donc j'ai préparé un document qu'on va distribuer tout à l'heure pendant le cours. Un document avec un plan, avec des exemples concrets que vous pourrez repartir avec pour essayer d'expliquer un petit peu la structure des 10 sphirotes. Donc je rappelle rapidement où on en est dans le Tania. On est dans le chapitre 3. Dans le chapitre 1, on a donné la définition de l'âme animale. On a expliqué que l'âme animale est principalement égocentrique. Ça, c'est si on pouvait résumer en un mot. Dans le chapitre 2, on a défini l'âme divine. Si on pouvait définir en un mot, on a expliqué que l'âme divine est une partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on a donné plusieurs exemples. Comment l'âme divine, c'est comme le fils par rapport à son père, que peu importe le membre, tous les membres sont liés à son père. Donc, de la même manière, peu importe la neshama, peu importe un tzaddik ou un rachat, tout le monde est lié, tout le monde est une partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on a parlé de pas mal de choses, de neshamot, de tzaddikim, plein de sujets qu'on a brassés très rapidement, qu'on reviendra dessus, Bezrat Hashem. Et là, dans le chapitre 3, on est rentré dans le thème. Là, maintenant, on est commencé à rentrer dans le thème de la structure intérieure. Ça veut dire quoi? Cette structure intérieure, on la retrouve partout dans la vie. Alors, j'ai vu que la semaine dernière, après le cours, par rapport aux questions que j'ai eues, par rapport aux questions que plusieurs personnes ont posées, j'ai compris qu'il y a peut-être des gens qui ont peut-être pas tout le monde a compris cette notion-là. Qu'en vérité, quand on parle de cette structure, nous, aujourd'hui, on va parler de l'âme divine, parce qu'on va s'arrêter sur l'âme divine. Mais en vérité, la structure qu'on va expliquer ici, c'est une structure qu'on retrouve partout dans la vie. On la retrouve dans l'âme divine, dans l'âme animale, quand je me lance dans un projet, dans un mariage, quand j'investis dans mes enfants. La structure qu'on va expliquer ici en 10 phases, c'est une structure qu'on retrouve dans toute la vie. Seulement, nous, comme on parle maintenant de l'âme divine, et que notre but maintenant, c'est de générer l'amour et la crainte par rapport à Kadosh Baruch Hu, donc on va se focaliser sur ça. Mais en vérité, il faut comprendre que, de manière générale, ces 10 phases, on les retrouve partout dans la vie. Pourquoi c'est très important de s'arrêter sur ces 10 phases? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ces 10 phases? Qu'est-ce qu'on en a à faire? La réponse qu'on a expliquée, c'est très simple. Parce que, on nous demande d'aimer et de craindre Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que, Akadosh Baruch Hu, comme je l'ai jamais vu, comme je l'ai jamais entendu, et comme je sais pas si je l'ai senti ou pas, donc comment tu veux que je l'aime?
On l'a entendu.
D'accord? Oui, mais moi, je l'ai pas entendu. Donc mon corps ne peut pas avoir un sentiment physique naturel d'attirance vers Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. Donc on est obligé de passer par le cerveau. On est obligé d'utiliser une technique que le corps a, mais que le corps s'en sert très rarement, parce qu'en général, on est attiré par notre cœur. On n'est pas attiré par notre cerveau, c'est comme ça, c'est la réalité des choses. Mais comme on n'a pas le choix, et que là, dans ce cas-là, par rapport à Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas être attiré par notre cœur, parce que mon cœur est attiré envers les choses que je connais. Or, ça, je ne le connais pas. Donc je ne suis pas attiré, je n'ai pas d'amour et de crainte. Tu me demandes de faire, je fais. Tu me demandes de ne pas faire, je ne fais pas. Mais je ne peux pas aimer et craindre. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de passer par le cerveau, de passer par la réflexion, de passer par la compréhension, par Chochma Bina Da'at. Et comme on va expliquer aujourd'hui, c'est seulement quand on va développer dans la tête que grâce à ça, automatiquement et instinctivement, on va générer un sentiment. D'accord? Donc on va reprendre maintenant, si vous voulez bien, Ubiur Ha'inyan. Alors, il y a les livres ici pour ceux qui ont leurs livres. Je sais pas qui c'est qui avait laissé son livre ici. Donc on a 4 livres hein, pour ça. Voilà. Tu avais laissé ton livre?
71.
Ah non, regarde, il y a déjà non.
Est-ce que 71 en bas?
D'accord. Ok. Donc là, on est quelle page?
71.
Ok, Ubiur Ha'inyan, bravo. Razak, Ubiur Ha'inyan. Page 71. Voilà, c'est là où on avait arrêté. Ubiur Ha'inyan, explication du sujet. Ça veut dire maintenant, on va essayer de comprendre. Rappelez-vous, si je peux résumer en deux mots ce qu'on a expliqué la semaine dernière. On a expliqué que dans la structure de l'homme, nous avons 3 facultés intellectuelles et 7 facultés sentimentales. Et que les 3 facultés intellectuelles peuvent générer les facultés sentimentales. On a expliqué comment, il y a plusieurs exemples, pourquoi c'est important. On a dit par exemple, quand on s'attache à quelqu'un, quand on s'attache à une femme, la Torah pense que d'abord il faut s'attacher intellectuellement, dans le sens que je dois comprendre qu'elle est faite pour moi et qu'on va dans la même direction. Et après seulement, je fais appel au sentiment. Si d'abord je fais appel au sentiment, et après je me demande, tiens, comment je vais arriver, là c'est un problème. La Torah en général, l'intellect est très très important dans la Torah. Alors je vais vous distribuer déjà ces feuilles-là maintenant. Et Bezrat Hashem, on va se référer à ce document tout ce cours. D'accord. Si vous pouvez faire passer. Voilà. C'est bon ? 71. Ok.
Dans le petit livre, c'est quelle page ?
Dans le petit livre, on est à la, voilà, au Bioreignan.
Tout à la fin de la page.
Ouais, Razak, voilà. En bas de la page. En fait, on va commencer en haut de la page. Qui est Sechel. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce document ? Dans ce document, ce que vous voyez, d'accord, juste je vous montre la structure générale et Bezrat Hashem, on reviendra à ce document tout ce cours. On voit une sorte de tableau. Alors, j'ai fait le tableau comme ça parce que c'est comme ça que le tableau est formulé. C'est comme ça que le tableau est fait dans tous les livres qui parlent de Kabbalah. D'accord, on parle pratiquement d'un arbre des Sephirot. Donc là, vous voyez qu'il y a une sorte d'enchaînement. Il y a une sorte d'enchaînement. Et l'enchaînement est toujours une structure, ça veut dire une boule à droite, une boule à gauche et une boule au milieu. Ensuite, on passe en dessous, une boule à droite, une boule à gauche, une boule au milieu. Encore une fois, une à droite, une à gauche, une au milieu, et enfin une en bas qui est la conclusion. Donc avec ça, on a la structure des 3 facultés intellectuelles et des 7 facultés sentimentales. D'accord ? C'est bon David, on est prêt ?
C'est celui de haut en bas ou de bas en haut ?
Ah, c'est celui de haut en bas et de droite à gauche. Voilà.
C'est comme l'arabe. Comme les
mots. Donc 3 facultés intellectuelles, 7 facultés sentimentales. Alors, on va aller une par une. D'accord ? On va aller une par une et après à la fin, on aura un exemple concret pour expliquer comment on peut retrouver ça dans la vie de tous les jours au jour le jour. Alors on y va. Ubi ureinya, l'explication du sujet. Ki hine asechel shebenefesh amaskelet. Quand je vais commencer un projet, d'où va commencer le projet ? On a expliqué la semaine dernière, le projet va commencer de l'idée. Il y a une idée. C'est-à-dire un jour je me lève et pac, j'ai une idée. D'où elle vient cette idée? Bon, peut-être c'est Hachem qui me l'a inspiré, peut-être c'est une idée que j'ai toujours eue, mais en vérité j'ai jamais ressenti. En tout cas, un matin je me lève, pac, j'ai une idée, il y a un flash. Vous savez, comme dans les bandes dessinées, à un moment tu vois une ampoule à côté de la tête, clic, une idée, d'accord? Voilà, là vous comprenez là. Hein. Donc, une idée, j'ai une idée, très bien. Qui est à Sechel chez Benefesh Amaskelet. Donc, il y a une âme, notre âme réfléchit. Il y a une capacité dans notre cerveau à innover et à trouver des nouvelles idées. Ce sechel-là, Nikra Beshem Chorma, il est appelé Chorma. C'est quoi Chorma? Chorma, c'est la capacité d'innover, de trouver des nouvelles choses. L'homme, la force de l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme est constamment en train d'innover. On reste pas stationnaire. On n'est pas comme des animaux que on apprend à manger, on apprend à boire, on apprend à dormir, et après on garde ça toute la vie. Même chose, matin, midi et soir, le même programme, le même menu. L'homme, la force de l'homme, c'est que l'homme, il est médaber, c'est que l'homme, il sait communiquer, et que l'homme a un sechel, un cerveau qui lui permet d'innover constamment. C'est pour ça que dans la Torah, toujours dans la Gemara, une des bases de la Gemara, c'est elle dit, En betamidrash blo chidush. Tu peux pas étudier deux fois la même chose, sans qu'il y a une nouvelle idée qui te vient. Ça veut dire que, même si tu crois des fois que tu répètes 10 fois le même texte, il y aura toujours une nouvelle approche, quelque chose de nouveau. Parce que le cerveau humain, c'est comme ça. Cerveau humain, tu passes 10 fois par la même rue, chaque fois que tu vas passer, tu vas découvrir un nouveau détail. La force du cerveau humain, c'est qu'il innove constamment. Donc, on va parler de ce projet maintenant. Première phase, c'est quoi la première phase? J'ai un projet, j'ai une idée. J'ai une idée, mais c'est une idée qui est encore très très vague. J'ai une idée, c'est-à-dire j'ai un flash, je vois comme une sorte de lumière. J'ai une lumière, je vois une lumière, je vois de la lumière au fond du tunnel, je vois quelque chose. Mais si je prends pas le temps tout de suite de m'arrêter et de développer cette idée-là, qu'est-ce qui va se passer avec cette idée? Elle va partir, elle va s'en aller. C'est ça, comme on l'a dit la semaine dernière, ça nous arrive à tous. Des fois, par exemple, t'as une idée, le Shabbat, ou t'as une idée, je sais pas quand tu veux.
Souvent, Shabbat.
D'accord? Shabbat, ou pendant la Hamida, ou pendant ce que tu veux, d'accord? Voilà. On dit que le Satan, il envoie les meilleures idées pendant la Hamida. Tu vois, si en pleine Hamida, t'as une idée de business, c'est-à-dire que ça veut dire que tu faisais une bonne Hamida avec le Satan, il a dit, attends, celui-là, je vais lui mettre un truc. Il va s'arrêter de faire sa Hamida. Et c'est comme ça, c'est malheureusement, mais c'est comme ça. Donc, première chose qui se passe quand je me lance dans un projet, Chorma. C'est quoi Chorma? Chorma, c'est l'idée, c'est le flash. Chorma, pourquoi c'est appelé Chorma? Parce que Chorma, c'est, si on décompose ce mot en deux, ça nous donne Koach Ma. La force du questionnement. la force d'innover, la force de remettre en question, la force de se dire, la force de se dire, ce qui m'a suffi hier ne me suffit pas demain. Je veux du nouveau. Je veux autre chose. D'accord? Ça veut pas dire que ce que j'ai fait hier c'était pas bien. Ça veut dire que maintenant, je dis bon, d'accord, ça c'était hier, mais aujourd'hui maintenant je veux autre chose. Ce que j'ai fait hier c'était bien, mais aujourd'hui c'est pas bien. Je veux quelque chose de nouveau pour aujourd'hui. Et c'est bien d'être comme ça. Vous savez, comme je racontais récemment ça à quelqu'un, je disais que en informatique, on a ce principe qui dit que quand on revoit des lignes de code, par exemple 1 an ou 2 ans après qu'on les a réécrits, si on est content de son code, ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Si quand tu revois un projet que t'as fait il y a 2 ans, comme ça on dit en informatique, je pense que c'est très juste. Si quand tu le vois, tu dis pas, mais attends, aujourd'hui si je l'aurais fait, je l'aurais fait différemment. Ça veut dire que t'as pas avancé. Si quand tu le revois, tu dis, ah, aujourd'hui, si j'avais fait ça, je l'aurais fait différemment. C'est-à-dire qu'entre-temps, t'as fait du chemin. Ça ne veut pas dire que ce que t'as fait hier, c'était faux. Ce que t'as fait hier, c'était bien. Mais la force de l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme est constamment en train de chorma, en train d'innover, en train de koar la force ma. La force du questionnement, la force de tout remettre en question. Donc, je me lève un matin, j'ai un travail, tout va bien, j'ai une femme, j'ai des enfants, et pac, j'ai une idée qui me tombe dans la tête. Alors, je peux me dire, mets ton idée de côté, reste tranquille, pourquoi tu te prends la tête, d'accord? Bon, je peux décider maintenant de prendre cette idée et la développer. Parce que je dis, c'est une bonne idée, cette idée me plaît, j'ai envie d'essayer de la développer. Le problème, c'est que cette idée, à ce stade-là, c'est vague, c'est un flash. D'accord? Par exemple, imagine-toi quelque chose. Voilà. J'habite dans un appartement. Un matin, je me lève et je dis, ah, j'aimerais habiter dans une maison. C'est une idée. Maintenant, est-ce qu'à ce stade-là, j'ai réfléchi de quoi je veux que la maison aura l'air? Est-ce que j'ai réfléchi combien de chambres il y aura dans cette maison? Est-ce que j'ai réfléchi où sera cette maison? Combien d'étages elle aura? Quelles couleurs seront les murs? Non, j'ai pas réfléchi à ça. J'ai eu un flash. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? C'est un exemple que le Zohar amène. Le Zohar, il amène cet exemple à propos d'un roi qui a eu une envie de construire un palais. Et ce roi, il sait pas au début, quand il a cette envie de construire ce palais, il sait pas au début comment sera son palais, combien de pièces, quelle couleur, les murs, et où il sera positionné. Il pense pas à tout ça. Il a un flash. Donc ça, c'est la première phase, la phase de Chorma. Chorma, donc on a dit qu'il y a un haut qui est comme le Yud. Ensuite, la phase suivante, c'est quoi? Lorsqu'il va essayer, Motsikoho alapoal, ça veut dire qu'il va essayer maintenant de traduire ça en concret. Ça veut dire cette idée qui était vague, qui était floue, il va essayer de la traduire dans le concret, ça veut dire qu'il va essayer maintenant de construire quelque chose avec ça. Donc il va devoir faire descendre l'idée pour essayer de la décomposer. Il va décomposer l'idée. Donc il va essayer de standardiser cette idée, de rentrer dans les détails. De rentrer dans les détails et les détails des détails. Dans les mots qu'il dit ici, c'est quoi? Shemit bonen besichlo. Le'avin da'at la'ashuro ou le'omko. Il va réfléchir dans son cerveau. Donc il va essayer de réfléchir et donc de décomposer. Le'avin davar la'ashuro ou le'omko. Il va chercher à comprendre la chose parfaitement. Pas juste une idée. Il va essayer maintenant de la comprendre et de le mettre dans les détails. Et de sentir la chose, de voir comment vraiment chaque détail marche. Tout ça, ça démarrait d'où? Mitor ezet dvar chorma muskal besichlo. Ça a démarré d'une petite idée qu'il avait eue dans son cerveau. Nikra Bina, ça s'est appelé Bina. Alors je ne reviendrai pas sur le cours de la semaine dernière, mais ceux qui étaient là au cours de la semaine dernière, on a expliqué comment les hommes sont très forts pour la première phase, c'est-à-dire la phase d'avoir des idées, et les femmes sont très fortes dans la deuxième phase, qui est le développement d'une idée. Donc chacun son rôle, etc. Bon, je ne reviendrai pas dessus. Ok. Vehen hem, ces deux phases-là sont Av vehem amolidot ahavat Hashem veirato ufachado. Ça, donc ces phases-là que je viens d'expliquer, que vous avez dans le plan devant vous, c'est des phases qu'on retrouve dans toute la vie. Maintenant, on va essayer de les retrouver, ces 10 phases-là, on va essayer de les retrouver dans le thème qui nous intéresse à nous maintenant. Comment je génère concrètement l'amour de Dieu et la crainte de Dieu? Alors voilà, je me lève un matin et je me dis, tiens, Dieu est important pour moi dans ma vie. J'ai une idée, comme j'ai un flash comme ça, je me dis, ah, Dieu est important. C'est un flash, ça veut dire que c'est un flash, je peux le zapper. Tu sais, ça peut t'arriver un matin, tu dis, mince, il faut que j'avance dans la religion. Tac, t'as un flash. C'est ton problème après. Tu peux décider de prendre ce flash et d'essayer de le développer. De te dire, voilà, comment je me vois avancer par rapport à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait. Je peux décider de le développer, mais je peux décider de le zapper. On a plein de gens comme ça qui ont des idées, qui zappent. Ça veut dire, il se lève le matin, ou bien en plein milieu de la journée, il a une idée, il dit, tiens, je devrais avancer, je devrais venir à des cours, et concrètement, walou, zéro. Pourquoi? Parce qu'il a eu que la phase de Chorma. Il a eu que l'idée. Il n'a pas pris le temps de la développer. Voilà pourquoi la deuxième phase est très importante. La phase de Bina est très importante, c'est la phase dans laquelle tu décides de t'accrocher à cette idée. Donc, si on parle maintenant dans la Kedusha, ça donne quoi? Première phase, c'est quoi? Première phase, je pense à Kadosh Baruch Hu. Deuxième phase, c'est quoi? Je m'arrête sur ce flash général qui m'a dit « je dois revenir vers Dieu » et j'essaie de me dire concrètement qu'est-ce que je vais faire. Voilà, tu dis « je dois revenir vers Dieu », concrètement qu'est-ce que je vais faire? Tu vas commencer à réfléchir. Je vais dire « voilà, aujourd'hui je fais tant et tant. Si je fais un bilan, dans la semaine j'étudie tant d'heures de cours. » Donc, moi quand j'ai envie d'approcher de Dieu, je pense que voilà de quoi j'ai envie d'avoir l'air dans un an. Donc je me projette. Je commence à me projeter. C'est-à-dire que j'ai attrapé l'idée et je commence à la développer comme un business. J'ai une idée, je me dis « voilà, aujourd'hui je suis comme ça. Voilà comment je pense que je serai dans un an. Voilà comment je vais être dans deux ans. » Tu te projettes. J'ai décidé de prendre l'idée et de la développer. Donc là, je suis passé à la Bina. Donc si on prend le tableau qu'on a à côté de nous, on a en haut à droite Chorma. Chorma, c'est l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est le flash primaire de l'idée que je peux zapper. C'est mon problème. Soit je l'attrape, soit je l'attrape pas. Mais il y a un flash. Dans la vie, on a plein de flashs. Plein de flashs. Combien de fois ça nous arrive que dans la journée, on a pas dit « ah tiens, il faut que je pense à ça ». 5 jours plus tard, « ah tiens, j'avais oublié, il faut que je pense à ça ». Et ça peut être toute la vie comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des flashs qu'on n'attrape pas. Il y a des flashs comme ça, le cerveau a des flashs, le cerveau a cette capacité d'envoyer des petits flashs de lumière comme ça pour te dire, hop, attention, il y a quelque chose ici. Après, c'est mon problème. Si je veux m'arrêter dessus, je m'arrête. Si je veux m'arrêter dessus, je m'arrête pas. D'accord? Donc, en haut à droite, qu'est-ce qu'on a? On a Chorma, qui est le flash. En haut à gauche, qu'est-ce qu'on a? Bina. Bina, la traduction littérale de Bina, c'est la compréhension. C'est quoi la compréhension? C'est le moment dans lequel on va développer en détail. Ça veut dire, j'ai décidé d'attraper ce flash, et je dis, attends, je vais développer ce flash maintenant, et je vais essayer de le mettre en détail et de voir de quoi ça a l'air. Mais pour l'instant, j'ai aucun sentiment envers la chose, et c'est, tout ça, c'est que dans ma tête. C'est entièrement intellectuel. Très bien. Donc, dans les mots. Car le sechel, donc le cerveau qui a bénéficié, si vous comprenez pas, vous m'arrêtez, hein, n'hésitez pas. Donc on va prendre notre exemple ici. Lorsque la personne va réfléchir, bigdoulat Hashem, à la grandeur de Dieu. Donc prenons un exemple concret. Je me lève le matin, je me dis, ah, Dieu est très très grand, il faut que je m'attache à Dieu. D'accord. Je décide de pas laisser zapper cette idée, et donc je vais décider maintenant de prendre l'idée et de l'attraper. À quoi je réfléchis? Je vais réfléchir comment Dieu est grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais essayer, c'est très difficile à le faire, mais je vais essayer de réfléchir sur moi en, comme une tierce personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, je vais faire comme si, que je prends une photo extérieure et je me vois qu'est-ce que je représente dans toute l'humanité. Qu'est-ce que je représente dans ma vie de famille? Qu'est-ce que je représente par rapport à mon travail? Qu'est-ce que je représente par rapport à la vie communautaire? Qu'est-ce que je fais par rapport à Dieu? C'est-à-dire, je quitte complètement mon ego. J'essaye de, j'ai pas la définition en français, si quelqu'un a la définition en français, de s'analyser extérieurement. Vous voyez ce que je veux dire?
Le mot français, c'est une introspection.
C'est non, en fait, c'est voir l'intérieur.
Là, c'est extérieurement. D'accord? Ça veut dire, j'essaye de me voir de l'extérieur. J'essaye de me dire, voilà, par rapport à l'image du monde, où je suis. Qu'est-ce que je fais? Et donc là, tu vas commencer à réfléchir, comme on l'a dit la semaine dernière, tu vas commencer à réfléchir, comment Akadosh Baruch Hu, d'abord tu vas réfléchir comment en vérité Dieu est présent dans tous les détails de ta vie. Parce que quand on quitte un peu son ego, et on arrête de dire, je veux, j'aimerais, j'aurais aimé, j'ai pas eu, quand tu quittes un peu le jeu, et que tu te mets à l'extérieur, et que tu commences à voir le plan général, depuis ta vie, comment tu as grandi, comment tu t'es marié, comment tu as eu des enfants, d'accord, comment ces enfants ont grandi. Quand tu commences à refaire un timeline, hein, comme disent les Américains, tu commences à comprendre que les choses ne se sont pas passées toutes seules. D'accord? Ça ne s'est pas passé tout seul, il y a quelqu'un derrière. Donc je commence à comprendre que peut-être il y a un Dieu. Peut-être. D'accord? Non, attends, peut-être. Après, quand tu commences à réfléchir, tu dis, mais attends, c'est pas seulement qu'il y a un Dieu qui était présent, j'ai même des fois eu des miracles. Ce Dieu, des fois, je l'ai ressenti très très fort. Et donc tu commences à réfléchir à tout ça. Comment Akadosh Baruch Hu est présent? Comment Akadosh Baruch Hu a toujours été là pour toi dans ta vie? Mais ça, pour l'instant, c'est uniquement intellectuel. Je continue. Nolda venit orera midat irat aromemu de moro marshavto liro ou liitboshesh migdulato itbarer sheein lasov vetaritz. Donc voilà, la semaine dernière on s'est arrêté ici, mais je suis obligé de reprendre pour la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand une personne Et d'ailleurs, je suis très content parce que cette semaine, il y a eu 3 personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, on a essayé ce que tu nous as dit la semaine dernière. Tu sais, sur le canapé, tu t'assois, tu réfléchis. Et ils m'ont dit, c'est très compliqué, mais ça marche. Donc, je suis très content que Baruch HaShem, c'est très difficile, mais ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? On a dit qu'à un moment, il faut essayer. À un moment, il faut essayer de se... Voilà, c'est 1, 2, 3. Voilà. J'ai pas dit de nom, je donne pas de nom. Moi, je donne pas de nom.
T'as pas la télé.
Pas de télé, d'accord, après.
Tu réfléchis.
Tu dors.
À la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Tu médites.
Pas seulement à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Non, plus que ça. Non, David, excuse-moi. C'est pas seulement réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Réfléchir à quoi je sers dans le monde. Où je suis dans tout ça. Où je suis dans le plan d'Akadosh Baruch Hu, dans le monde où je suis. À quoi je sers à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que j'ai fait depuis ma naissance? Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je me suis marié? Qu'est-ce que j'ai fait depuis le dernier Rosh Hashanah? Où j'avance? Où je vais? D'où je viens? Où je vais? C'est très difficile. Les hommes n'aiment pas les bilans. On n'aime pas les bilans. C'est comme ça. Parce que quand tu dois faire un bilan, tu dois te mettre devant la réalité. Et on n'aime pas avoir la réalité face à nous. C'est la réalité. C'est comme ça. Les Chaim. On va dire les Chaim. On va dire ce qu'on va dire. Tout le monde est servi.
Ah, oui, c'est facile.
Ok. Le Chaim. Oh, chaque fois les mitzvahs. Elle est forte, celle-là.
Zumbroko.
C'est la pure, ça, c'est.
C'est de la vodka, ça, ou c'est de la liqueur?
C'est 50, quand même. C'est bon, tout le monde est servi?
C'est la pomme, non?
Ok. Un goût de pomme, un peu. Donc, je reprends. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la personne va commencer à réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué la semaine dernière, en hébreu, ça s'appelle comment? Idbonenut, avec deux noun, un noun. Idbonenut, ça veut dire quoi? Ça veut dire réflexion. Idbonenut, ça veut dire se mettre à l'écart. D'accord? On va parler d'Idbonenut aussi. Hein. Il y aura un petit peu dans le reste du travail, on en parle un petit peu, mais on en parle. Non, bien sûr, on en parle un petit peu aussi, bien sûr. Des fois, tu es obligé de te mettre à l'écart. Pour réfléchir.
C'est un concept bien à part.
C'est un sujet très important. Donc, allez, les Chaim à tous. Tout le monde a dit les Chaim?
Ouais.
David?
Chaim.
Chaim et les Vrachas.
Marcel, t'as une gamme?
Une couleur plutôt.
Donc, je vais réfléchir. Donc, on va prendre l'exemple qu'on a ici à côté de nous. Donc, j'ai Chochma et Bina. Première phase, c'est quoi? Chochma, je vais réfléchir au projet. J'ai un flash. Bina, je vais décider de m'arrêter sur ce projet-là. Automatiquement, à force de réfléchir, Akadosh Baruch Hu a créé cette chance énorme qu'on a en nous, qui est quoi? Qui est que Akadosh Baruch Hu nous a donné la capacité que le cerveau peut dominer le cœur. Le cerveau domine le cœur. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. On raconte que lorsque Napoléon, a voulu donc il a voulu se battre contre la Russie, donc il avait déjà bien avancé dans la Russie. On raconte que l'Admour Hazaken, il y avait une grande maroquette entre les rabbanim, est-ce qu'il fallait être pour ou contre Napoléon? Une grande maroquette, je rentrerai pas dans les détails. L'Admour Hazaken disait que si Napoléon va gagner, il n'appelait pas Napoléon, il appelait Bonaparte, comme ça, Bête P, il voulait même pas dire son nom, il disait Bête P. Bête P, c'était Bonaparte. Hein? Parce que c'est, pour lui, Napoléon, c'était les forces du mal. Il voulait même pas dire son nom. Ouais. Il appelait Bête P. Bête P, c'est Bonaparte. Donc il a dit, si Napoléon va gagner, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs iront mieux matériellement, mais ils vont régresser spirituellement. Mais si c'est le tsar qui va gagner, Nicolas, je crois que c'était, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs, ils vont plus souffrir matériellement, mais spirituellement, ça va plus marcher. Donc il y a une grande marloquette. Pour qui les Juifs devaient prier? Est-ce qu'ils devaient prier pour la défaite de Napoléon ou pour la défaite de Nicolas?
Il faut qu'ils prient pour ce qu'il
y a. Et on raconte en tout cas que c'est un débat qu'il y avait à ce moment-là entre les tzadikim. Et on raconte que l'Admour Hazaken, lui, pensait qu'il fallait que c'est le tsar Nicolas qui gagne. D'accord? Lui, pensait comme ça. Et on raconte que l'Admour Hazaken, il avait un de ses chassidim qui s'appelait Rabbi Moshe Meizlich. Je l'appelle Rabbi parce que ça aurait pu être un Rabbi sans problème, mais bon, c'était un chassid de l'Admour Hazaken. C'est un chassid qui était très très intelligent, qui était très versé dans la Torah, Baki Bécha, tout ce que vous voulez, connaissait tout le Talmud. Il connaissait aussi beaucoup de langues. Et il était très versé dans la culture aussi. Donc l'Admor Hazaken lui a dit, toi ta mission maintenant, c'est d'aller au QG de Napoléon et d'essayer de proposer tes services. Donc il est parti, il a proposé ses services de traducteur. Parce que ça manquait, c'était un très bon traducteur, il connaissait plusieurs langues, donc il s'est proposé en tant que traducteur. Et il s'est proposé en tant que traducteur, et l'histoire raconte que il a pris comme ça plein d'informations, et progressivement il commença à les envoyer à Nicolas. Alors, l'histoire raconte qu'à un moment Napoléon, c'est une histoire, ça s'est écrit aujourd'hui dans le livre Goy, hein, c'est même pas dans les livres ça. Et donc l'histoire raconte qu'à un moment Napoléon, il a compris qu'il y avait un espion, qu'il y avait un problème. Alors il est rentré dans la salle dans laquelle on était en train de, enfin la salle apparemment où il y avait les stratèges qui étaient là. Et il a commencé à dire, qui est l'intrus? Alors tout le monde s'arrête comme ça. Et là, il vient, il passe à côté de Rabbi Moshe Meizlish, et sans le prévenir, il met la main sur son cœur. Pour voir, est-ce que le cœur, il bat plus fort ou pas? Et le cœur de Rabbi Moshe Meizlish battait normalement. Alors, il est revenu voir le Rabbi après, il lui a dit, Rabbi, vous savez comment j'ai réussi à maîtriser mon cœur? Parce que j'ai compris ce que vous avez dit dans le Tanya, qu'un homme en vérité a cette capacité de mohar shalit à la lèvre. Que le cerveau peut dominer le cœur. Physiquement. C'est-à-dire que quand je décide que je dois rester calme, eh ben, mon cerveau peut dominer mon cœur, que mon cœur, il va basse normalement. D'ailleurs, en passant, donc par la suite, bien sûr, quelques jours plus tard, ce Rabbi Moshe, bon, a été viré, ça va de soi. Mais, en reconnaissance à cette action-là, on l'a demandé qui vous a envoyé, il a dit, c'est l'Admour Hazaken. Le tsar Nicolas a donné une médaille à l'Admour Hazaken, et avec toute personne qui avait cette médaille-là, peut rentrer quand il veut pour aller voir le tsar. Le tsar, et lui et ses descendants. Et les rabbis de Chabad ont utilisé plusieurs fois cette médaille pour rentrer quand il y avait des décrets, etc., pour rentrer dans des moments dans lesquels normalement personne pouvait rentrer. C'était la médaille qu'il avait reçue de Rabbi Moshe Meizlish suite à cette action qu'il avait faite. Voilà. Une sorte de laissez-passer, ouais. Oui.
Quand tu dis ça, c'est-à-dire que le cerveau de le cœur, mais biologiquement, mais c'est pas ça ce qu'on veut dire avec le cerveau maîtrise le cœur, c'est-à-dire il maîtrise les pulsions.
Il maîtrise les pulsions, mais ça veut dire aussi ça. Ça veut dire qu'il peut maîtriser même le côté physique du cœur. Il maîtrise tout. Même est-ce que mon cœur va battre fort ou pas, même ça le cerveau peut maîtriser. D'accord? Donc je reprends. Bon, je referme la parenthèse. Exactement, c'est le sang-froid, mais pas seulement que j'ai l'air de quelqu'un de calme, que je suis calme. C'est très dur, c'est très très dur. C'est une formation pour les services secrets, ça. C'est pas seulement que tu fais celui qui est calme, tu es calme. Non, du fait que dans son cerveau, il a décidé que maintenant je dois être calme, et ben il a réussi à avoir une empreinte sur son cœur, que son cœur est resté calme. Donc, on va développer ça tout de suite. C'est bon? Voilà. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Parce qu'a priori, nous, ce qu'on veut, c'est maîtriser les pulsions du cœur. On en a rien à faire si le cœur il bat plus fort ou moins fort, ça va rien changer. Mais c'est pour nous montrer à quel point le cerveau peut maîtriser le cœur. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Je vais me mettre à réfléchir à la grandeur de la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que la Kadosh Baruch Hu représente dans ma vie? Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Automatiquement, je vais sentir à ce moment-là comment, progressivement, je commence à sentir le projet. C'est pas seulement que c'est quelque chose d'intellectuel que je sens. Je veux ressentir progressivement que je commence à sentir le projet. Alors là, je suis conscient que c'est pas facile ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que j'ai donné un exemple concret. Si vous voulez bien, on va lire ensemble dans le papier que je vous ai donné. Et normalement, cet exemple, j'aurais dû donner après. Mais on va le faire maintenant. Comme ça, vous allez comprendre, quand on avance, vous allez comprendre de quoi on parle. On va prendre un exemple concret. Construction d'un projet. Voilà, donc je vais me lancer dans un projet. Peu importe le projet, d'accord? Un projet de Gdusha ou pas de Gdusha, ça peut être même du mal. Un projet. Donc, on va voir 10 phases ici. Vous avez 10 phases. Première phase, c'est quoi la première phase? L'intelligence. Une idée germe dans mon esprit. Il y a une idée. Deuxième phase, j'ai décidé de prendre cette idée et de la développer en détail. Donc, c'est la compréhension. Je décide pas seulement d'avoir une idée, mais de la comprendre. Donc, je vais développer cette idée en détail. Très bien. Troisième phase. Non seulement que j'ai développé l'idée mentalement, mais je commence à m'attacher et me sentir concerné. Ça veut dire, des fois, je peux réfléchir à quelque chose, mais je vais dormir, je pense le contraire. C'est pas un problème, je me sens pas concerné. Là, des fois, quand tu as un projet, tu réfléchis. Quelqu'un, comment tu sens, mais je me sens concerné, ça me parle. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, numéro 4. Je développe un sentiment général d'attirance et d'amour envers ce projet. C'est-à-dire que mon cœur commence à être attiré. Je commence à sentir le projet. Je commence à sentir que j'aime ce projet-là. Numéro 5, rigueur. Une fois que j'aime le projet, que je me suis attaché au projet et que j'ai compris le projet, je comprends que si je veux que ça marche, je vais devoir développer un sens de la rigueur. C'est quoi la rigueur? Ça veut dire, j'essaye au maximum de garder strictement la structure du projet. Toute personne qui s'est déjà lancée dans un business et dans un projet, il vous dira qu'après un moment, quand les idées commencent à partir dans tous les sens, il faut avoir cette capacité de recadrer et de dire, attends, non, je commence avec ça, je dois arriver ici, on recadre, on garde la structure.
Mais Manby, ce que tu es en train de donner comme exemple, toutes les phases-là, on les étudie dans un plan...
Ah, certainement. Bah, pour...
Quel cas, hein,
dans, le mettre dans le même ordre. Bon. Donc... Peut-être, voilà. Donc, d'abord, j'ai l'idée. Ensuite, je la développe. Ensuite, je me sens concerné par cette idée. Ensuite, j'aime l'idée. Ensuite, je développe un sentiment de rigueur envers l'idée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je décide de mettre de la structure. Ensuite, numéro 6. Étant donné que je sais plus quoi faire, d'un côté, il y a la... ça veut dire là, j'arrive à un moment, là, j'arrive quand j'arrive à la sixième phase, j'arrive à une phase dans laquelle je sais plus quoi penser par rapport à ce projet. D'un côté, j'ai un côté dans mon cerveau qui me dit, calme-toi, sois structuré. Et d'un autre côté, j'ai un autre côté dans mon cerveau qui me dit, j'aime le projet, je vais tout casser. Alors, il faut doser. C'est compliqué. Donc là vient la sixième phase très importante, qui va faire le mix entre le 4 et le 5, et qui va dire, attends, t'inquiète pas, on va rester en harmonie, tout va bien se passer, tu aimes le projet, mais tu vas garder la rigueur. On va expliquer dans la suite comment c'est possible, dans ce chapitre. Ensuite, une fois que dans ma tête c'est bien clair, j'ai compris le projet, j'aime le projet... En même temps que j'aime le projet, j'ai compris qu'il faut avoir une certaine structure. Là, à ce moment-là, je comprends que le projet est compliqué. Mais là, à ce moment-là, il y a un truc énorme, c'est qu'il y a une envie en moi, j'ai une envie de victoire. J'ai une envie de me montrer et de montrer aux autres que je peux le faire. Là, vous voyez, c'est pas par hasard que c'est au niveau 7. Parce que quand tu arrives au niveau 7, tu comprends que la petite idée que je croyais que c'était une petite idée facile, là, je commence à comprendre que cette idée, en vérité, elle est très, très, très compliquée. Et donc là, c'est pour ça... que mon corps développe une envie, il dit, mais attends, qu'est-ce que tu te calmes? Va aller, on va gagner! D'accord? Là, il y a encore une fois, c'est quoi le problème? C'est que quand je dis on va gagner, je risque de vouloir écraser, de casser toutes les règles. Et c'est là que vient l'autre côté qui te dit, hey, attention, reste humble. Ne crois pas que t'as tout compris, que t'as rien compris, t'as rien commencé encore. t'es que dans la tête et dans ton cœur, t'as rien commencé. Donc vous voyez encore une fois, côté droit, côté gauche. Le côté droit, c'est quoi? C'est le côté qui dit, on va gagner, on va tout casser, je vais tout changer le monde. L'autre côté, qui te dit, calme-toi, je me sens petit face au projet. Ensuite, numéro 9. Numéro 9, c'est quoi? Communication. D'accord? Communication, ça veut dire quoi? Maintenant que dans ma tête, tout est clair, que j'ai envie de le faire, je me sens petit par rapport au projet, et dans ma tête, j'ai bien compris, j'aime le projet, mais je garde la structure, toutes ces étapes-là, là, je veux commencer à en parler. Je veux commencer à en parler avec les autres pour voir comment les autres pensent le projet. Et avant de me lancer, je vais leur poser la question, qu'est-ce que vous sentez du projet et comment vous voyez le projet? Ça va m'aider à moi à mieux sentir le projet et à avoir du feedback. Et enfin, dernière phase, c'est quoi? La royauté, on va expliquer pourquoi on appelle ça la royauté dans la suite. Je passe à l'action. C'est-à-dire que c'est seulement quand j'ai fait tout ça que je passe à l'action. Bon, maintenant on va reprendre ces dix phases-là et on va les retrouver maintenant par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et on va les reprendre phase par phase.
On
va prendre le tableau maintenant, d'accord? Avant de perdre dans le texte, on va reprendre le tableau. Donc, on a en haut, vous avez faculté intellectuelle, les trois premières. Ensuite, en bas, vous avez les sept dernières, c'est les facultés sentimentales. Donc, en haut, on a déjà expliqué longuement, Chorma Bina, le flash primaire de l'idée, et ensuite le développement en détail. Da'at, je l'ai pas encore développé, c'est à la fin du chapitre. Comment on se sent concerné par la chose? Très bien. Ensuite, une fois que je me sens concerné, que j'ai bien développé dans ma tête, à un moment, sans que je maîtrise, hein, c'est comme ça, c'est-à-dire à un moment, quand tu as pétri le sujet dans ta tête, à un moment, qu'est-ce qui se passe? À un moment, tu sens que le sujet, il passe de la tête au cœur. Tu sens que tu commences à sentir la chose. D'accord? Et ça, je pense que le meilleur exemple, c'est l'exemple que je vous ai amené la semaine dernière du Shidour. Mais en vérité, vous pouvez le retrouver dans plein de choses dans votre vie. C'est que, quand je vous expliquais que quand on sort en Shidour, pour les jeunes hommes qui sont ici, quand on sort en chidour, d'abord on commence par le cerveau. C'est-à-dire d'abord ton cerveau te dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. D'abord je réfléchis mentalement. Et après un moment, à force de réfléchir, et quand je comprends que cette femme est pour moi, alors automatiquement à force de réfléchir, je sens que progressivement c'est en train de passer du cerveau vers le cœur. D'accord? Et, mais je le maîtrise pas, c'est comme ça. C'est le cœur, d'accord? C'est un sentiment qui va être généré par ça. Donc, quand on passe au midot, nous avons trois premières midot qui sont Chesed, Gvura, Tiferet. Chesed, c'est quoi? La bonté, l'amour. Oui.
Tu peux quand même avoir le cœur avant, puis le cerveau qui redescend.
C'est possible. Tout est possible. Là, on parle de la structure top d'après la Torah. La meilleure façon. Parce que quand tu commences par le cœur, des fois le cœur peut vouloir des choses qui ne sont pas cachées. Parce que le cœur ne sait pas ce que c'est la structure. Le cœur, c'est binaire. Soit j'accroche ou j'accroche pas. Le rôle du cerveau, c'est de donner une structure. Et grâce à la structure que le cerveau a donnée, c'est ce qui va me permettre par la suite de savoir en même temps être attiré par le projet, mais d'un autre côté garder une certaine rigueur. En même temps de vouloir réussir victoire du projet, et en même temps savoir me sentir humble. Si je ne suis pas passé par la phase du cerveau, j'arrive pas à faire de l'ordre dans mon cœur. Parce que le cœur, c'est binaire. Soit j'accroche, soit j'accroche pas. D'ailleurs, j'avais expliqué une fois il n'y a pas longtemps, c'est la raison pour laquelle les téphilines du bras qui sont à côté du cœur, il y a une seule cavité. Alors que dans les téphilines de la tête, il y a quatre cavités. Parce que le rôle de la tête, c'est justement de fractionner, d'avoir chaque morceau à sa place. Mais le cœur, on fractionne pas dans le cœur. Le cœur, c'est binaire. Soit je le sens, soit je le sens pas. C'est ou oui ou non. Zéro ou un. Donc c'est pour ça que le rôle du cerveau est très important. Parce qu'une fois que dans le cerveau, j'ai bien compris qu'il y a plusieurs phases, alors quand ça passe au cœur, j'arrive aussi dans mon cœur à trouver plusieurs pulsions. Une pulsion pour vouloir gagner la chose, mais en même temps une pulsion pour savoir me sentir petit. Une pulsion pour savoir aimer le projet, et en même temps une autre pulsion pour savoir me freiner dans le projet et me dire « ça, c'est pas maintenant, ça, je le ferai pas ». Ça veut dire que le fait que je suis passé d'abord par la phase du cerveau, c'est ce qui va m'aider à mettre de l'ordre dans mon cœur. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué. Quand directement je laisse mon cœur parler, ben le cœur des fois il peut aller dans des directions complètement tordues. Voilà pourquoi d'après la chassidoute, on appelle ça la chassidoute Chabad, parce que c'est très important de commencer par le cerveau. Du moins d'essayer de structurer un maximum dans sa tête. Allez-y, les questions. Alors, posez toutes vos questions, comme ça j'essaierai d'incorporer les réponses dans la suite.
Juste, dans ce cas, on devrait dire que l'harmonie, c'est le Sechel.
Non ?
C'est lui qui va contrôler les deux sentiments du cœur, Chesed et Gvura.
C'est une bonne question. L'harmonie, alors je n'ai pas encore parlé de l'harmonie. L'harmonie, c'est un sentiment intérieur, quand tu te sens bien.
Oui, mais c'est grâce au Sechel que
Non, c'est pas grâce au Sechel. C'est une force que j'ai de me sentir bien. Ça veut dire, c'est quoi l'harmonie? C'est quand j'ai réussi à retrouver un calme intérieur. Comment? J'ai un combat dans mon côté. Quand tu te lances dans un projet, t'as un combat à l'intérieur de toi. D'un côté, tu te dis, j'aime le projet, je vais aller à fond, j'ai envie d'aller au top. Et d'un autre côté, t'as un autre côté qui te dit, calme-toi, reste tranquille. Et l'harmonie, c'est quoi? C'est j'arrive à doser les deux et garder un calme intérieur. Ça, je peux pas arriver à ça si je ne suis pas passé d'abord par le cerveau qui m'a permis de structurer la chose. Très important. Et on va le retrouver, d'ailleurs en passant, on va le retrouver même dans la voie d'attachement. Je vais expliquer pourquoi c'est important. T'as des gens qui vont dire par exemple, moi j'aime Dieu. Vous savez combien de fois ça m'arrive quand je vais dans les magasins pour mettre les tefillines aux gens? Il dit, moi j'aime Dieu. Mais j'aime pas les interdits. Pourquoi il me dit, t'as pas le droit, j'ai pas le droit de... Moi j'aime Dieu, ça s'arrête là, j'ai que l'amour. C'est quoi le problème de cette personne-là? C'est qu'il a démarré par le cœur. Il n'y a pas de cerveau, il n'a pas réfléchi. Il démarre par le cœur, il dit, moi je le fais comme je le sens. Donc comme il démarre par le cœur, qu'est-ce qui se passe? Son cœur sent que moi je veux communiquer avec Dieu, avec l'amour. Il dit, tout le reste je zappe, ça m'intéresse pas, tous tes interdits, tout ton shabbat, etc. Moi je communique avec Dieu, j'ai vraiment des gens qui aiment Dieu. Des gens, tu vas leur dire, tu veux mettre les tefillines, dis-moi Dieu. En cœur. Il met pas les tefillines. Plein comme ça. Non, il se moque de personne.
Il est convaincu
de ce qu'il dit. Pourquoi le problème? Le problème, c'est qu'il parle avec le cœur. Et qu'il fait pas un travail avec sa tête pour structurer tout ça. Donc comme il parle qu'avec son cœur lui dit, ça je sens pas, alors laisse-moi tranquille avec le reste. Le rôle du cerveau, c'est justement de structurer tout ça. De dire, c'est pas incompatible. Tu peux aimer Dieu, et en même temps, savoir garder une structure, c'est pas incompatible. C'est la force de l'harmonie. Vous savez, dans la suite, on va parler de l'harmonie. Qu'est-ce qui fait, par exemple, une belle musique? D'accord? C'est les notes. Mais qu'est-ce qui fait la belle musique? On peut pas... C'est l'harmonie. Ça veut dire quoi, l'harmonie? Ça veut dire, si tu prends la même touche, hein, comme dans Gad Elmaleh, là, que tu prends la même touche et tu appuies, lui, il a trouvé la touche, il appuie 10 000 fois la touche, il n'y a pas de beauté. Pourquoi il n'y a pas de beauté? Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. C'est quoi l'harmonie? L'harmonie, c'est quand tu prends une note qui est plus haute, une note qui est plus basse, et tu jongles. La même chose. Si on parle d'harmonie, qu'est-ce qui fait la beauté, par exemple? Qu'est-ce qui fait la beauté d'un design? Qu'est-ce qui fait la beauté d'un design? C'est l'harmonie. On va marier les couleurs. On va prendre des fois même deux couleurs contradictoires et on les a mariées ensemble. Et quand on arrive à bien les marier ensemble, eh ben ça donne un nouveau charme qu'il n'y aurait pas pu y avoir même si tu aurais mis que les couleurs claires. Ça veut dire, quelqu'un va dire, moi j'aime que les couleurs claires. L'autre va dire, moi j'aime que les couleurs foncées. C'est quoi l'harmonie? On lui dit, écoute, c'est ni les couleurs claires, ni les couleurs foncées. Quand tu sais marier les deux, alors ça donne un nouveau résultat qui est encore plus beau que le noir et le blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que le rôle de l'harmonie, c'est justement d'utiliser le côté droit et le côté gauche, la bonté et la rigueur, pour essayer d'avoir une sorte d'harmonie, et en utilisant les côtés diamétralement opposés. Donc ça c'est pour répondre à ta question, Chesed, Gvura, Tiferet. Ensuite, je reprends. Oui, allez-y. Ah oui, pardon, les questions. Oui.
Lorsqu'on reprend ce qu'on a dit par rapport au cerveau, au cœur, au foie.
Ah, je vais pas parler du foie là.
Oui, il y a le foie.
On va dire qu'on a. Non, c'est un très bon point ce qu'il dit. Il a raison de parler du foie.
Ah, la foie.
Le foie. Et ici, le foie. On l'a c'est ici avec la volonté, donc la victoire, d'aller jusqu'au bout de son...
Je n'ai pas parlé du foie, c'est encore autre chose.
Il est partie intégrante là-dedans. Et on peut le voir soit du côté positif, soit du côté négatif, comme ce qu'on a au niveau du cœur, comme on a au niveau du...
Je comprends. Bah, je veux pas en deux mots, si vous voulez, après le, avec plaisir, si vous voulez, après le cours, on peut en parler. En deux mots, le foie, c'est lié à la volonté. Et la volonté n'est pas liée à un membre spécifique, ni à un emplacement spécifique. La volonté se trouve partout. Elle est, ni elle est dans un endroit spécifique, et ni, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais quand on a étudié le,
je vais expliquer, attendez, je vais expliquer ce que je veux dire. Là, en vérité, le Zohar explique. D'ailleurs, quand j'ai cherché des croquis sur Internet pour les sphirotes, il y a beaucoup de croquis qui te montrent le corps humain. Bon, j'ai pas voulu les reproduire parce que, donc ils te montrent le corps humain. Dans le corps humain, tu as Chorma, Bina, Da'at. Da'at, c'est la gorge. Chorma, le flash. Bina, c'est le développement. Da'at, c'est la gorge. C'est quoi la gorge? C'est ce qui me permet, enfin, la gorge, le bas de la tête, donc la gorge, qui me permet de faire passer au cœur. Ensuite, j'ai Chesed, Gvura, Tiferet. Donc, la bonté, la rigueur, comme on va développer, et Tiferet, l'harmonie. Ensuite, j'ai Netzach, l'envie de gagner, d'accord, les tripes. Hod, l'humilité, je me sens petit. Et Yesod, c'est la Brit Mila. Parce que c'est ce qui me permet de communiquer avec la femme. Et enfin, Malchut, c'est quoi? C'est le corps qui marche, qui avance. Où est la volonté? La volonté n'est pas liée à un membre spécifique. La volonté est liée au corps entier. Dans le petit doigt de pied, il y a la volonté. Dans la main, il y a la volonté. Dans la tête, il y a la volonté. Mais ça, c'est après le cours. La volonté, je ne parle pas maintenant. C'est pas le thème.
Non, mais t'as dit que dans tout le corps, c'était le plaisir qui était.
Bon, ça, après le cours. Voilà. Je suis là, vous inquiétez pas, je ne le sens pas. Non, parce que la semaine dernière, j'ai eu quelques plaintes après le cours, qu'il y avait beaucoup de questions et que des fois on a dévié et que c'était un peu difficile de garder le fil. Donc on va essayer de garder le fil.
Ouais. Elle est rare,
en fait. Hein? Oui, je rentre pas dedans. Non, ça veut dire, voilà, on va garder le fil, hein, sérieusement. Ne vous inquiétez pas, je suis là. On peut rester ici autant de temps qu'il faut pour clarifier tous les points, il n'y a pas de problème. Donc, on va reprendre maintenant notre texte. D'accord? Et on regardera en parallèle notre feuille. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la personne va commencer, on va revenir maintenant, on va quitter le business, on va quitter tout ça, on va parler maintenant de l'amour et de la crainte de Dieu. Donc, notre projet maintenant, c'est quoi? Je veux aimer et craindre Dieu. Je ne l'aime pas et je ne le crains pas puisque je ne le connais pas. Donc, puisque je ne le connais pas, je vais devoir faire un travail de réflexion. Et quand je vais réfléchir, d'abord j'ai un flash qui me dit « Taïne Mouna, t'es un juif ». Ça, il dit l'Admor HaZaken dans un autre endroit, la Chorma, tout le monde là. Ce flash qui de temps en temps te rappelle « t'es un juif », tout le monde là. Même le plus grand Racha qui fait des 400 coups, il y a des moments dans la ville dans lesquels il a un flash de Chorma qui lui dit « Hé, réveille-toi ». Maintenant, le problème, c'est que la majorité des cas, on le laisse passer. D'accord? Donc c'est quoi Chorma? Chorma, c'est ce fameux flash de la Emouna qui te rappelle t'es un juif. Bina, c'est quoi? Je décide de prendre ce flash et de le développer, de l'élaborer, de me dire qu'est-ce que Dieu représente pour moi dans ma vie. Da'at, je laisse pour la fin du chapitre. Ensuite, progressivement, à force de réfléchir, progressivement, ça va passer du cerveau au cœur. C'est plus un sujet qui est abstrait et qui me parle pas, ça devient quelque chose qui me parle, que je sens, je le sens en moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Progressivement, Nolda, Venit Orera, Midat, Ira, Tormemud, Mecho, Marshafto, Liro, non pardon, c'est déjà lu, ou Pachad Hashem Belibo. Je veux pas qu'on perde le fil. On est dans les mots. Non. Voilà, au milieu de la page 74. Donc, ou Pachad Hashem Belibo. La personne, progressivement, au début, c'est seulement dans sa tête, c'est seulement une émotion qu'il a un petit peu dans son cerveau. Et après, progressivement, il va sentir comment cette émotion est en train de passer. 74, au milieu de la page, 74.
Tout le monde a une feuille?
Non, moi j'en ai pas.
Tiens, pardon, excuse-moi. Yves? C'est bon? Ok. Donc progressivement, qu'est-ce que je vais sentir? Ou Parad Hashem Belibo. Comme on a expliqué la semaine dernière, la personne va réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il va réfléchir comment il est petit. Quand j'essaye de sortir de ma personne, pas penser qui je suis, qu'est-ce que Dieu me doit, et qu'est-ce que je fais envers Dieu. Non, je sors de ma personne. J'essaye de voir comment je suis par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et quand je me regarde extérieurement, plus j'avance et plus je comprends que je suis tout petit. Je suis tout petit, je suis un microbe, je suis rien du tout. Et plus tu avances, et plus tu te sens tellement petit, que tu dis, mais attends, comment je peux faire des Averot? Donc tu commences à avoir peur. Pas, pourquoi peur? Parce que tu sais que tu n'es pas un tzaddik, tu sais que tu as fauté, et tu sais que tu vas fauter. Et tu dis, mais attends, mais quand je vais arriver en haut, mais il va même faire la shrita. Tu commences à avoir une peur. Mais qu'est-ce qu'il explique après? C'est même pas une peur du Gehinnom. C'est même pas une peur du Gehinnom. D'accord? C'est pas une peur du Gehinnom du style comme à l'école, je t'attends à la sortie. D'accord? C'est même pas une peur du Gehinnom. C'est que tu te sens tellement petit que t'as honte de ce que tu fais. J'ai honte. Tu dis, mais attends, Dieu est tellement grand. Et moi, je suis tellement petit. Et il s'occupe tellement de moi. Il m'a tellement guidé dans ma vie. Qu'est-ce que je suis là? Parce que j'ai un petit plaisir, je suis en train de faire des bêtises. Je commence progressivement à sentir que là, d'une idée qui était abstraite dans ma tête, je pensais à la grandeur de Dieu. Je sens comment c'est en train de descendre dans mon cœur et mon cœur commence à s'accrocher à ça. Je continue. Veshuv itlahev libo be'ava zakirishvej. Alors qu'est-ce qui va se passer juste après que j'ai cette peur-là? Je me dis, mais attends, si ce Dieu il est tellement grand, j'ai envie de m'attacher à lui. Comme on l'a dit la semaine dernière, l'exemple que les chassidim donnent sur ça, il dit c'est comme l'amour qu'il y a, l'amour que va développer un chassid envers son rabbi. Si on pourrait donner un exemple, d'accord? C'est un exemple qu'on peut donner. Qu'est-ce qui va se passer? Au début, quand tu vas voir un tzaddik, t'as peur. Tu te sens tellement petit, t'as peur. T'as peur même qu'il te regarde. On dit que les chassidim, lorsqu'ils allaient voir le rabbi, ils se cachaient, lorsque le rabbi passait comme ça, à l'impromptu, ils se cachaient. Ils avaient peur. Parce que tu sais qu'il voit tout ce qu'il a en toi, tu te sens tellement petit. Et après, plus tu as peur et plus tu sens qu'il est tellement grand, tu te dis, mais j'aimerais tellement m'attacher à lui. J'aimerais tellement comprendre ce qu'il veut. J'aimerais tellement voir ce qu'il veut. J'aimerais tellement le voir, ressentir sa kedusha. Donc, progressivement, tu auras un sentiment d'amour qui va se développer. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer après, c'est que progressivement, la personne va ressentir un amour envers un Kadosh Baruch Hu. Il veut s'approcher d'un Kadosh Baruch Hu. Comme tout à l'heure, j'ai donné l'exemple dans le projet, qu'au début, c'était une idée que j'ai eue. Et après, plus tu développes, tu dis, mais attends, mais cette idée, elle était bonne. Elle était très bonne, cette idée. Et tu commences à la sentir, l'idée. Tu dis, mais mince, mais c'est une très bonne idée, mais c'est extraordinaire. Il faut commencer tout de suite. Tu sens que tu accroches au projet et tu sens que ça te parle. Il dit, vehi kelot anefesh. Des fois, les tzedikim, ils peuvent arriver à un niveau que tellement ils sentent qu'ils ont envie de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, que presque ils sentent que leur neshama a envie de partir. Ça veut dire, si je prenais l'exemple de tout à l'heure de celui qui se lance dans une affaire, et qu'il a réfléchi et qu'il voit que son affaire est extraordinaire et qu'il commence à la ressentir, des fois, tellement il est chaud, qu'il a envie de tout arrêter ce qu'il est en train de faire et de se mettre à fond dedans et tout oublier. Il dit, j'oublie tout, j'oublie ma femme, mes enfants, j'oublie tout le monde, je me lance dans ça. Et c'est là que venir l'autre face qui me dirait, calme-toi, rigueur. Reste tranquille. Calme-toi. Parce que si tu vas que Ahava, que l'amour, Klot Anefesh, c'est le problème de Nadav Aviou, les enfants de Aaron, qu'ils ont eu un sentiment d'amour tellement grand envers Akadosh Baruch Hu qu'ils voulaient partir. Ils étaient en extase. Ils attendaient que ça que leur Neshama parte. Et leur Neshama est parti. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la Gvoura par derrière. Ils n'ont pas eu la Gvoura par derrière qui leur a dit, hé, calme-toi. Garde les règles. On n'a pas le droit de boire avant de rentrer. On n'a pas le droit. Garde les règles. Non, ils n'ont pas eu cette phase de Gevura, et c'est pour ça que ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Qu'est-ce comme c'est écrit, Nirsefa vegam kaltanafshi. On voit qu'en vérité, c'est un sentiment qu'on peut avoir. Alors, là, il va amener les Teilim. Dans les Teilim, il y a trois versets dans les Teilim qui parlent de ça. Premier verset dans Teilim qui dit, Nirsefa vegam kaltanafshi. Le roi David, dans le psaume 84, il dit, mon âme, a envie de partir. Elle a envie de s'évaporer pour aller vers toi. Uktiv, c'est écrit aussi dans le psaume 42. Sam anafshi lelokim, mon âme a soif de Dieu. C'est-à-dire, des fois, tellement ta neshama, elle te dit que t'as envie d'avancer, que tu sens une soif, tu sens que t'as envie de tout arrêter. Comme je dis souvent, des fois, les gens, quand ils avancent dans la teshuva, hein, ils ont envie de tout lâcher, de tout plaquer. Ils ont envie de arrêter avec sa femme, d'arrêter avec tout. Et c'est là que vient la rigueur qui lui dit, attends. C'est pas parce que t'as fait teshuva, hein, que du coup, maintenant, tu vas tout lâcher. Ça marche pas comme ça. T'as une femme, t'as des enfants. T'as de la famille, tu peux pas tout lâcher. C'est quelque chose sur lequel le rabbi insistait énormément sur ça. Il insistait énormément sur ce point-là, que des fois, une personne, quand il avance vers Akadosh Baruch Hu, tellement il a compris, tellement ça lui parle, qu'il a que le côté chesed, que le côté ahava, amour, et donc du coup, il a envie de tout lâcher. Il a envie de couper avec ses amis, il a envie de couper avec sa femme, de couper avec ses enfants, il a envie de couper avec tout le monde, il dit non, ils sont pas religieux, ils m'intéressent pas. C'est là qu'il vient la deuxième phase de Gvura qui lui dit calme-toi. Qui lui dit, c'est très bien ce que tu fais, mais il faut restructurer tout ça. Il faut restructurer tout ça, c'est pas parce que tu avances vers Akadosh Baruch Hu, que c'est à cause de ça, hein, que tu vas quitter le contact que tu as avec ta femme et tes enfants et toute ta famille. Donc c'est très important d'avoir de l'autre côté la Gvoura qui fait la balance de l'autre côté. Ensuite, il continue, il dit, Vati Ma'on, Umi Yesod Ha'esh, chez Benefesh Elokit. Alors là, il fait juste une petite parenthèse. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, hein, dans le premier chapitre, on avait expliqué qu'il y avait quatre fondements. Vous vous rappelez les quatre éléments? Qui se rappelle les quatre éléments?
Eau, terre.
Esh, non, on va commencer par dans l'ordre. Esh, Ruach, Maïm, Afar. Esh, le feu. Ruach, le vent. Maïm, l'eau. Afar, la terre. On avait expliqué qu'en vérité, c'est pas forcément quatre éléments physiques, mais ça peut être aussi quatre éléments métaphysiques. Donc, par exemple, comment on peut retrouver ça dans le corps? Quand des fois tu sens que t'as le feu, ça peut être le feu de la colère, mais ça peut être aussi le feu que tu sens que t'as envie d'avancer vers un Kadosh Baruch Hu. Le feu d'un projet. Ça, c'est Ahava, ça, c'est l'amour. Ça,
c'est...
Pourquoi? C'est comme ça, c'est ce que j'aurais dit. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que ça correspond pas à un ordre logique. Non, tu as raison, ça correspond pas à un ordre logique.
Non, je sais pas quel
ordre logique. Non, ben le feu en haut, la terre en bas, et puis.
Non, il a raison que normalement on aurait dû commencer par. Maïm. Maïm, après. Ruach. Enfin, moi, je sais pas pourquoi. Faut chercher. Mais en tout cas, partout où on amène les quatre, on dit toujours Esh, Ruach, Maïm, Afar. La même question. Esh, Ruach, Maïm, Afar. Le feu, le vent, l'eau et la terre. On avait expliqué que chaque élément de ce monde-ci, même les éléments métaphysiques, sont composés de ces quatre éléments.
Ah, mais c'est dans cet ordre. C'est-à-dire, c'est un ordre.
Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Je veux pas inventer, je sais pas. Vatimaon, umiyesod ha'esh, ukmoshekat vativim, vechen u betzraim, sheyesod ha'esh ubalev. Il dit comme ça. Là, en vérité, tu vois, l'Adon Razaken, il pose pas ta question, mais de manière un peu détournée, il pose ta question. Il dit comme ça. Il dit, si je vous dis l'eau, ça représente quoi pour vous? Ça représente quoi? Si je vous demande de comparer l'eau et le feu, je vous aide là. Le feu, on a dit, c'est quoi? C'est le cœur qui sent qu'il a envie d'avancer. Et l'eau, c'est quoi? C'est le cerveau, Razak. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est le cerveau qui est là pour te calmer. D'accord? Donc normalement, il pose une bonne question. Normalement, on aurait dû commencer par l'eau. L'eau, d'accord, parce qu'il y a le cerveau. Après, tu as le feu. Après, tu as le vent. D'accord? Et après, tu as la terre. Bon, le Zohar n'a pas dit comme ça. Je sais pas pourquoi, il faut chercher. En tout cas, ce que je veux montrer ici, c'est quoi? L'idée que l'Admor HaZaken veut montrer, c'est que là maintenant, je pense qu'on commence à comprendre que le cerveau peut dominer le cœur. Pourquoi c'est très important à comprendre ça? Parce que quand t'as quelqu'un qui vient te dire, écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est pas de ma faute. Mon cœur a envie de faire de la Averot. C'est plus fort que moi. C'est classique ça. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Alors on dit, qui c'est qui peut dire c'est plus fort que moi? Ton cœur, il peut dire c'est plus fort que moi. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas donné, si Akadosh Baruch Rabotai, si Akadosh Baruch Hu nous avait créé comme des animaux, que chez lesquels le cerveau ne peut pas dominer le cœur, effectivement, un lion, quand il a une pulsion et il a envie de manger un homme, il va te le manger. Il peut pas s'arrêter. Il n'y a pas de cerveau pour l'arrêter. Donc quand moi maintenant j'ai envie de faire une avéra, si je me vois comme un animal qui dit moi j'ai que un cœur et mon cœur il veut le faire, eh ben c'est trop tard, je l'ai fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça c'est si tu réfléchis comme un animal. Mais si tu réfléchis comme un homme et qu'un homme Dieu lui a donné un cerveau qu'il n'a pas donné aux animaux et que le cerveau peut dominer les pulsions, il n'y a pas d'excuse. C'est pour ça qu'il dit, c'est très important pour l'Admor HaZaken, avant même de commencer le travail du Benoni, de dire, d'enlever déjà cette base et de dire, ne me dis pas que tu peux pas. Tu veux pas peut-être, c'est difficile peut-être, mais ne dis pas que tu peux pas, parce que Dieu nous a donné un cerveau, et le cerveau peut générer les sentiments que tu veux, il peut maîtriser ce que tu veux. Mohar, Shalit, Al, Alev. Le cerveau peut dominer le cœur. Donc je continue, ce qu'il dit ici. Allez-y. Je termine deux lignes, après les questions. Je vais reprendre le tableau pour expliquer ça après les questions avec plaisir. Donc on va reprendre le tableau. Vous remarquerez que dans le tableau, toujours le côté droit, d'accord, c'est pas par hasard si dans le tableau, c'est pas juste que j'ai pris Photoshop et j'ai mis des boules et je les ai mis au hasard, d'accord. Il y a un sens dans ce tableau-là. C'est que à droite, c'est tout ce qui est du côté bonté. À gauche, tout ce qui est du côté rigueur. Et au milieu, c'est tout ce qui est l'harmonie, ce qui va marier la boule d'en haut et la boule de droite d'en haut et la boule de gauche d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dis la bonté, c'est quoi la bonté? La bonté, c'est l'envie de donner. L'envie de s'approcher de quelque chose. D'accord? La rigueur, c'est quoi? C'est l'envie de s'éloigner. L'envie de structurer. Donc, de cadrer. Maintenant, si vous voulez bien, on va relire le tableau, mais on va relire dans un autre ordre. Au lieu de le faire comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, on va lire d'abord la colonne de droite, après la colonne de gauche, après la colonne du milieu.
Pourquoi il est très en gras, il est très prolongé?
Parce que c'est la résultante.
La résultante. Mais pourquoi l'humilité à gauche?
Alors c'est justement, c'est tout ce qu'on va expliquer. On va lire, c'est pour ça, pour répondre à ta question, que je vais lire le tableau différemment maintenant. Juste deux secondes, si vous inquiétez, juste deux secondes. On va relire le tableau maintenant, et on va montrer comment en vérité il y a une structure. Regardez. La structure, comment elle se passe, c'est comme on a dit, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, Rorma, Bina, Da'at, Resek, Vora, Tiferet. Mais ce que je veux montrer, c'est que le côté droit, de manière générale, est la bonté. Le côté droit, qu'est-ce qu'on a en haut? Rorma. C'est quoi Rorma? Le flash. La volonté d'innover. Donc la volonté d'innover, ça veut dire quoi? La volonté de rajouter, de créer, de faire quelque chose. Très bien. Ensuite, toujours dans la colonne de droite, Resed, la bonté. La bonté, c'est l'envie de donner. Donc toujours l'envie d'aller vers l'avant. Netzach, c'est quoi Netzach? La victoire. La victoire, c'est encore une fois l'envie d'aller vers l'avant, de réussir. Je passe à gauche maintenant. Bina, c'est quoi la compréhension? C'est quand je prends l'idée, je veux m'arrêter sur une idée, mon cerveau est en pleine ébullition, je l'arrête, je dis stop, calme-toi. On va prendre cette idée, on va la développer. Je stoppe mon cerveau. Donc, quelque part, je suis en train de calmer mon cerveau. Mon cerveau qui est en pleine ébullition, qui a une idée, je lui dis arrête les idées. J'ai plus besoin d'idées maintenant, je veux garder cette idée et essayer de la développer. Donc je suis déjà de l'autre côté, je suis dans la phase de la rigueur. Ensuite, toujours du côté gauche, Gvura, c'est la rigueur. La rigueur dans laquelle on expliquait, je mets de la structure dans mon projet. Toujours du côté gauche, Hod, l'humilité. C'est quand dans mon projet, je me sens sûr de gagner, etc. Là, il y a un moment dans lequel je me sens petit par rapport au projet. Et donc, du coup, encore une fois, je vais presque me réfracter, comme ça on dit?
Rétracter
par rapport au projet. Donc, vous voyez encore une fois, le côté gauche et le côté de la rigueur. Et le côté du milieu. Quand on a le premier côté, date, on l'a pas développé, on va le développer tout de suite, c'est l'attachement, je me sens concerné. Ça veut dire c'est le mariage entre les deux, mais ça je l'ai pas encore développé. Tiferet, c'est l'harmonie. C'est quoi l'harmonie? On a dit c'est doser entre la bonté et la rigueur. Ensuite, je descends encore dans la colonne du milieu, on a Yeson, c'est la communication. Communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir marier comment d'un côté je suis humble envers les autres, c'est pour ça que je vais leur demander conseil, mais d'un autre côté j'ai envie de gagner. Vous savez que c'est très important quand on demande conseil à des gens, quand on veut se lancer dans un projet, qu'on demande conseil à des gens. C'est très important. C'est pas parce que je demande conseil que ça veut dire que j'ai plus d'idées propres. Je demande conseil, mais j'ai mon avis. C'est ça le conseil, la communication. Ça veut dire, j'écoute ce que les autres ont à me dire, j'ai l'humilité, mais en même temps, j'ai la victoire qui me dit, t'es pas venu, c'est pas eux qui font le projet, c'est toi qui fais le projet. Donc, encore une fois, la communication, c'est quoi? C'est un mariage entre, d'un côté, l'envie de gagner, et d'un autre côté, je me sens petit, donc j'ai besoin du conseil des autres. Et enfin, Malchut, la royauté, c'est quoi? C'est la résultante de tout ça, c'est quand je décide concrètement de passer à l'exécution du projet. Alors.
On peut dire que ce qui est à droite, c'est chaud, ce qui est à gauche, c'est froid.
Oui, 100%, ouais. 100%. 100%.
Ça doit être 50-50?
Pas du tout. C'est pas du tout 50-50, et justement, c'est ce qui fait la différence entre les hommes. Là, je vous montre un tableau, on est tous comme ça, mais seulement ce qui fait la différence entre les hommes, c'est qu'il y a un qui a un peu plus de Rorma, l'autre qui a un peu plus de Bina, l'autre qui a un peu plus d'envie de gagner, l'autre qui a un peu plus d'humilité, et c'est le dosage de toutes ces midotes-là qui fait la différence entre nous. C'est comme les couleurs, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une base ici, la base primaire, c'est 10 firotes. Chacun de nous, on a ça en nous, mais après, le dosage de ces 10 firotes vont faire la différence entre nous. Mais ça veut dire qu'en vérité, chacun de nous a un petit peu de tout ça.
Bien sûr.
Au moins un petit peu de tout ça. Mais en général, il y a toujours un côté qui est plus fort que les autres. C'est comme ça.
C'est un caractère dominant.
Est-ce que je suis plutôt bon? Est-ce que je suis plutôt harmonieux? Est-ce que je suis plutôt rigoureux? C'est un caractère, on peut rien faire, ça. Ok? Allez-y.
Juste une remarque. Quand tu regardes ton schéma,
oui.
Tu as le côté gauche dont on vient de parler, le côté droit. Mais si tu lis le schéma uniquement pendant la ligne du milieu,
oui.
Bon, en fait, tu te rends compte que c'est les trois là. Apporte donc la notion d'équilibre.
Exactement.
Et c'est ça la difficulté. Quand on a du mal à se contrôler, c'est parce qu'on n'arrive pas à mettre de l'équilibre.
Exactement.
Et de la relativité dans ce qu'il faut. Et là, ça, c'est ce qui permet de pouvoir aller vers la
contre-équilibre. Très bon point ce que vous dites. Alors, c'est justement le thème de la suite. L'équilibre. Là, c'est pour ça que j'ai pas encore parlé de Da'at. Et si vous voulez bien jusqu'à la fin de ce cours, on va essayer maintenant de développer qu'est-ce que c'est le Da'at. Parce qu'on a bien remarqué, comme M. Berger fait remarquer à juste titre, qu'on remarque toujours la phase du milieu représente l'équilibre. D'accord? Donc c'est l'équilibre entre l'équilibre du cerveau, l'équilibre des sentiments, d'accord? L'équilibre entre d'un côté j'ai envie de gagner, donc quand j'ai envie de gagner, vous savez, des fois quand on a envie de gagner, on écrase un peu tout le monde. D'un autre côté je me sens petit, il y a toujours un équilibre. Alors. On va parler maintenant de cet équilibre qui est très très important, parce que s'il n'y a pas l'équilibre, on n'a rien gagné. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Le chiffre 3 est très important, parce que le roi Salomon, il a toujours pris comme chiffre 3 pour pouvoir donner un raisonnement médian. Donc, et ça a été repris par Banater, quoi, la caisse éditeur en toi.
Par Banater ?
Tu connais pas Banater ?
C'est qui ? C'est celui qui a abrogé, qui était à l'origine de la...
C'est un grand législateur en France.
La peine de mort.
C'est cassant, en sorte que ce soit... Il est mort il n'y a pas longtemps, non ?
Robert.
Pas mort,
c'est 1970.
Il est mort il n'y a pas longtemps, je pense. Bon, ok, peu importe. Alors, on continue. Maintenant, qu'est-ce que c'est le rôle du DAT ? Allez, rabotaille. Si vous voulez, j'aimerais juste terminer dans les 5 minutes qui restent. Comme ça, après, s'il y a des questions, on pourra s'arrêter sur les questions. Allez, on quitte Badinter, on revient au DAT. Véadat. Donc là, maintenant, je suis à Véadat, donc dans le Tania ici que vous avez. On a tourné la page. On a tourné la page. On est en bas de la page 76. Donc, Véadat. Quel est le rôle du Da'at? On a dit Chochma, Bina, Da'at. Donc là, vous avez remarqué que on a zappé un petit peu Da'at jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, on a parlé de tout le reste, mais Da'at, on n'a pas vraiment compris qu'est-ce que ça veut dire cette échelle, la chose. Là, maintenant, vous allez comprendre pourquoi on a dû laisser ça en dernier. Ve'adat, c'est quoi le Da'at? Ou Milchon ve'Adam yada et trava. Lorsque Adam a eu des relations avec sa femme, la Torah nous dit que Adam a connu Chava. C'est-à-dire, je crois qu'il a connu.
Il a fait qu'un.
Oui, mais ça veut dire, on sait très bien que dans la Torah, hein, quand la Torah dit quelque chose, la Torah nous donne la définition. Quand il a eu des relations avec sa femme, on dit qu'il a eu yada, il a connu sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport entre ça et la connaissance?
Réciproquement.
Intégré.
Certainement, oui.
Déjà, quand on fait dans l'Amida, Adar.
Exactement. Bien sûr, bien sûr.
Prenez l'Adar.
Alors, c'est là qu'on va comprendre.
C'est intégré la chose de la... Quand
on dit
comprendre dans le sens d'intégrer la chose.
On va expliquer. Ça veut dire quoi? C'est quoi le dat? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'un homme, quand il a des relations avec une femme, c'est dat? Quel rapport avec dat? D'accord? Alors, il explique ici. Ve'adat, ou mileshon, ve'adam, yada et trava. Donc, en général, vous avez remarqué, c'est pas par hasard, c'est pas une erreur de traduction. Quand vous avez remarqué le numéro 3, comment on a traduit dat? On a traduit dat par attachement. Si vous prenez le dictionnaire, le Larousse, hein, les beaux français, vous verrez que dat, il va traduire comment dat? Il va traduire par la connaissance.
Savoir.
Et c'est le savoir, et c'est la traduction littérale. Sauf que, comme j'expliquais la semaine dernière, moi, j'ai pas donné la traduction littérale, j'ai donné la traduction qui correspond le plus au pchat, correspond le plus au sens qu'on veut tirer, s'il vous plaît. C'est quoi le dat? Dat, c'est l'attachement. Pourquoi? Parce que lorsque Adam a eu des relations avec sa femme, on dit que yada, il a connu sa femme. C'est-à-dire quoi, il a connu? Ça veut dire, vehu, lashon, itkashrut, veitrabrut. Quand un homme il a des relations avec une femme, ça veut dire qu'il s'est attaché avec sa femme, qu'ils vont former un seul corps, que lui et l'idée vont former un seul corps. Si je reprends dans le projet, avant que j'arrive à la phase de dat, il y a le projet et il y a moi. Combien d'exemples on a comme ça de grands philosophes qui avaient des grandes théories extraordinaires et après dans la pratique c'était complètement des autres personnes. Hein, comme Aristote, par exemple. Et quand on leur demandait, on leur disait, mais comment vous pouvez vous comporter comme ça, alors vous avez venu de dire le contraire. Ils disent, ça, c'est ce que j'ai dit, et ça, c'est ce que je suis. Et c'est deux choses différentes. Et c'est pas incompatible. C'est quoi le rôle de Da'at? Le rôle de Da'at, c'est l'attachement. L'attachement que quand l'homme va avoir des relations avec une femme, l'homme et la femme vont former un seul corps. Ça veut dire quoi? Dans l'idée, quand j'ai avancé dans Chochma Bina Da'at, c'est que j'arrive à une phase dans laquelle tellement j'ai avancé dans l'idée qu'il n'y a plus l'idée et moi. Moi, c'est l'idée et l'idée, c'est moi. Je fais un seul corps avec ça. Ça, c'est déjà une phase dans laquelle je suis bien avancé. Et c'est à ce moment-là, quand l'idée, j'ai intégré l'idée à tel point que c'est mon idée, c'est moi, ça fait partie de moi, c'est à ce moment-là que le déclic se fait et hop, ça va passer progressivement du cerveau au sentiment. Donc ça, le Da'at, c'est une phase très importante. S'il vous plaît, je vais juste terminer. Rabotai, laissez-moi. Je continue. Il dit, va dat. Donc, chez mes cachers dato. C'est bon? Donc, c'est quoi le dat? Chez mes cachers dato, bekecher amitz vechazak meod. Et là, on va parler de l'Aïd Bonenout. Plusieurs personnes la semaine dernière ont posé la question sur l'Aïd Bonenout. C'est quoi l'Aïd Bonenout? Et il faut pas rater la fin du chapitre, hein, c'est vraiment important. Donc là maintenant, il va expliquer qu'en vérité la vraie Hidbonenout se passe dans le Da'at. Pina, c'est la phase dans laquelle tu réfléchis dans les détails. Mais Da'at, c'est le moment dans lequel tu réfléchis pour te sentir concerné. Ça veut dire tu réfléchis jusqu'à ce que le sujet te parle, jusqu'à que sente que on parle de moi et que ça c'est moi. C'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Alors vous allez voir les expressions qu'il va dire ici et vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est très compliqué. Shem kasher dato bekesher amitz vechazak meod, qui va s'attacher avec la personne. Je vais m'attacher avec l'idée, avec un lien qui est très fort. Veitka machashavto bechozek. Pour reprendre notre exemple de celui qui pense à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il va planter sa pensée de manière puissante, bigdulat en savoru, dans la grandeur de Dieu. Et il fait des efforts pour ne pas détourner son esprit. C'est-à-dire, il va essayer de réfléchir un maximum de temps. Et son cerveau, maintenant, il a dit, arrête de réfléchir à ça, c'est bon, j'ai compris. Il dit, non. C'est pas la compréhension qu'on veut maintenant. On veut que tu sentes la chose. On veut que tu sentes le projet. C'est très compliqué, tu me dis, je sens pas, qu'est-ce que tu me veux? Réfléchir. Et il dit, à force de réfléchir, à un moment, tu vas te sentir concerné, tu vas te sentir que ça te parle. C'est pour ça que c'est très important de réviser, répéter. Et à un moment, tu vas sentir que c'est plus une idée théorique, c'est la pratique, c'est une idée qui me parle. Donc, imaginons une personne qui est un génie, qui est capable de répéter tous les livres de Kabbalah, et qu'est-ce que représente Akadosh Baruch Hu, et tel niveau, c'est un génie. C'est-à-dire au niveau de la Chorma, il connaît parfaitement, même au niveau de la Bina. Mais si cette personne-là n'est pas passée par la phase de Da'at, dans laquelle il a réfléchi, et il a dit, en quoi tout ce que j'ai étudié me parle? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette personne-là, il pourra jamais avoir un sentiment envers Akadosh Baruch Hu. Tant que tu n'es pas passé par la phase de Da'at, Chorma, Bina, Da'at, tant que tu n'es pas passé par la phase de Da'at, c'est-à-dire tant que tu ne te sens pas concerné à la chose, tu peux pas espérer après avoir un sentiment envers la chose, ni un sentiment de répulsion, ni un sentiment d'amour, c'est impossible. Il faut obligatoirement passer par la phase de Da'at, dans laquelle tellement tu as réfléchi à la chose, que tu sens que la chose te concerne et que ça te parle. Vous savez, quand on étudie une Gemara, on voit ça dans la Gemara, mais dans beaucoup de choses. Quand on étudie une Gemara, première fois que tu lis la Gemara, tu penses que tu as compris. D'accord? Mais ça te parle pas spécialement. Tu sens pas que ça te parle et que c'est ton projet. Bon, okay, c'est intéressant. J'ai étudié un texte intéressant. J'ai ouvert un livre intéressant. Après, à force de répéter, de commencer à voir les commentaires, et voir la question de Rashi, et voir la question de Tosfot, et voir la question de ceux qui ont posé dessus, à force de réfléchir et de repasser, à un moment, tu sens que c'est ton projet, tu sens que c'est ta Gemara, tu sens que tu es dedans. Tu sens que tu dors avec, tu te lèves avec. Mais ça, le Moraz HaKanedi, c'est très très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Donc il dit comme ça, qui af mishu chacham venavam bigdulat en savaruchu, même une personne qui est très intelligente, qui a beaucoup de rochma, qui a beaucoup de bina, ça veut dire qui a beaucoup de flash de emuna, qui a beaucoup de compréhension, mais qui ne passe pas par le da'at, iné. Im lo yekasher dato veitka machashavto bechozek uvatmada, s'il va pas prendre un moment dans sa vie, dans sa semaine, dans son mois, dans son année, pour essayer de réfléchir sérieusement où je vais, où tout ça m'amène, eh ben, il dit, lo yolid benafsho ira ve'ava amitit, il ne peut pas faire naître en lui, ira ve'ava amitit, une crainte et un amour véridique, véritable, qui indimye notchav, ça sera simplement un sentiment qui est ce qu'on aurait dit aujourd'hui en français de l'autosuggestion. Ça veut dire quoi? On va prendre par exemple l'exemple d'un homme et sa femme. Un homme, il va se poser la question, il va dire, est-ce que j'aime ma femme? La Gemara Zaken te dit quelque chose de très important ici. Il te dit, s'il n'a pas pris du temps pour réfléchir, qu'est-ce que ma femme représente pour moi? Pourquoi elle est importante pour moi? Pourquoi c'est important? Et réfléchir jusqu'à ce que tu sens que ça te concerne. C'est pas une étrangère. C'est quelqu'un qui est avec toi, c'est une partie de toi. Tant que tu n'es pas passé par ça, même si tu crois que t'as les sentiments, c'est du bluff. C'est de l'autosuggestion. Tu dis que tu aimes parce que tu crois que tu veux aimer, mais en vérité c'est du bluff. C'est pas un vrai sentiment. Et tu peux faire une chose et le contraire juste après. Un vrai sentiment, c'est quoi, hein? C'est quelque chose qui est issu d'une réflexion et une réflexion qui est tellement poussée, tellement profonde, jusqu'à ce que tu sentes concerné. Tu sens que ça te parle. Tu sens que quand t'es accroché avec la personne, ça te dérange. Ah, là, il y a quelque chose. Mais si tu sens pas, ok, laisse-la accrocher. Ah, il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'amour. Et même quand tu crois que tu l'as aimé, en vérité, c'était Dimionot Chav. Ah, c'est quoi le Dimion? Dimion, c'est quoi? Bon, Dimion, c'est un... L'imagination. Je t'imagine. Dimion, ils disent les Tunisiens, c'est ça? C'est les Tunisiens qui disent ça, Dimion?
Tout le monde. Alors, c'est ce qui explique les divorces, alors.
J'irai pas jusqu'à là. Velken, c'est pour ça, je termine. Adat, c'est pour ça, Adat, et qui va m'aider de Chayutan. Voilà pourquoi l'Admor HaZaken dit, donc conclusion, c'est pas par hasard si la Chassidut Chabad, on l'appelle Chassidut Chabad, dans le sens de Chorma Bina Da'at, parce que si on pouvait résumer en un mot ce chapitre, quel nom on aurait donné? Da'at. Si tu n'as pas la phase de Da'at, dans laquelle tu n'as pas réfléchi et tu ne t'es pas senti concerné, tu perds ton temps. C'est-à-dire, même si tu crois après que tu sens que tu aimes le projet, que tu n'aimes pas, il te dit c'est du bluff. C'est Dimionot Chav. Tu crois que tu aimes, mais c'est de l'autosuggestion. Tu dis que tu aimes, donc tu crois que tu aimes. Si tu veux avoir un vrai sentiment, il faut réfléchir jusqu'à ce que tu te sens concerné par la chose. Que ton cerveau te dise, ça me parle, c'est moi, c'est ma vie. D'accord? Là, quand tu te sens concerné, là, tu vas sentir comment progressivement, ça va générer un sentiment. Voilà pourquoi dit l'Admor HaZaken, c'est pas par hasard. Si vous avez remarqué dans le plan qu'on a encore une fois à côté de nous, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que du Da'at, il y a deux flèches, une flèche qui part vers Chesed, une flèche qui part vers Gvura. C'est pas par hasard. Parce que, bien que normalement on aurait voulu faire deux groupes, un premier groupe de trois facultés intellectuelles et un autre deuxième groupe de sept facultés sentimentales, et qu'on aurait pu les mettre dans deux tableaux différents, c'est pas par hasard si le Zohar les met dans le même tableau. Parce que c'est le même tableau. Si tu n'es pas passé par la phase de Da'at, automatiquement tu perds ton temps pour le reste. Même si tu crois que tu vas aimer, tu crois que tu vas... C'est l'autosuggestion. Pour réellement aimer quelque chose, il faut passer par Da'at. C'est quoi Da'at? C'est l'attachement, je sens que le sujet me parle. Donc ça veut dire, en d'autres termes, si je veux résumer ici ce qu'il va dire ici l'Admor HaZaken, le plus important dans la vie d'un juif, c'est de prendre du temps pour réfléchir et de sentir comment tout ça me concerne. Alors là, on touche à un autre grand sujet. Et si c'est pas le cas, si je sens que ça me concerne pas, qu'est-ce que je fais? Et c'est là qu'on va passer dans le chapitre 4, qui est très intéressant, qui va parler des trois outils que Dieu nous a donnés pour nous permettre justement de nous sentir concernés. Trois outils que Dieu nous a donnés. Marshava, Dibour, Marassé. La pensée, la parole, l'action. On aura deux chapitres sur ça. Pour expliquer que ça, c'est les deux outils que Dieu nous a donnés pour apprendre à se sentir concerné par quelque chose. Par exemple, je reprends l'exemple de la femme, puisque c'est l'exemple qu'on a pris. D'accord? Une personne, il ne se sent pas concerné avec sa femme. Il a trois vecteurs pour se sentir concerné par rapport à elle. Premièrement, Marshava. Très important ça. Il va réfléchir. Qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Qu'est-ce que je représente pour elle? Pourquoi ça ne va pas? Comment je pourrais améliorer? Ensuite, il y a Dibour. Il va lui parler à sa femme. Il va communiquer. D'accord? Pas à dire, je pense dans ma tête, mais je comprends pas. Dibour, il faut parler. Et troisième vecteur, Maasé. L'action. Il faut passer à l'action. Ça ne pas seulement penser et parler. Il faut passer à l'action. Ça, par exemple, offrir des cadeaux, avancer, faire de l'action, aller dans l'action. Et ce qu'il va expliquer dans la suite, très important, ça, ce qu'il va expliquer dans la suite, c'est que Marshava, Dibour, Maasé, c'est les trois vecteurs que Dieu nous donne pour réussir à s'attacher à quelque chose. En tout cas, ce qu'on a compris dans ce chapitre, c'est qu'il y a une structure. Il y a une structure qui est très très claire, qui est parfaitement claire ici. On a une structure dans l'Admor HaZaken qui est très très claire. La structure des 10 midot. On a bien compris que dans cette structure, chaque phase est importante, mais qu'il y a des phases très importantes, notamment le da'at. C'est une phase transitoire entre le cerveau et le cœur. Et que si on passe pas par cette phase-là, automatiquement, on perd son temps. C'est pour ça que dans le Tanya, il y aura plusieurs chapitres qui vont être dédiés à ce thème-là. Comment réussir à se sentir concerné par quelque chose? Comment réussir? On va revenir plusieurs fois. Là, on va parler d'abord dans le chapitre 4 et chapitre 5. On va expliquer la pensée, la parole et l'action. Mais après, quand on va passer après au chapitre 26, 27, 28, 29, etc., il va parler d'une personne qui est déprimée, d'une personne qui est pas bien, d'une personne que ça lui parle pas. Et tous ces cas-là, il va dire, comment tu fais? Je me sens pas concerné. Et on va prendre cas par cas. Et il faudra qu'à la fin de ce livre, on arrive à se sentir concerné. Parce que d'après l'Admor HaZaken, si tu ne te sens pas concerné, tu peux pas aller à la suite. Tu peux pas avoir un vrai sentiment d'amour et de crainte. Et donc, pour reprendre ce qu'Avraham a dit la semaine dernière, en vérité, le Rambam dit que comment tu peux demander à quelqu'un d'aimer et craindre Akadosh Baruch Hu? Je peux pas l'aimer et le craindre, je le connais pas. C'est quoi la mitzvah? Quand on relit dans les mots du Rambam, dans une croix qui se dit à Torah, dans les lois de fondement de la Torah, le Rambam dit, itka darato bechozek. C'est quoi la mitzvah d'aimer et de craindre un Kadosh Baruch Hu? C'est de planter, ça veut dire de concentrer son da'at, son attachement, d'essayer de faire un maximum pour se sentir concerné, jusqu'à que progressivement, à force de se sentir concerné, ça va générer un sentiment d'amour et un sentiment de crainte envers un Kadosh Baruch Hu, ainsi que tout la suite, comme on a pu voir ici. Voilà, on s'arrête là pour. Oui, allez-y. Merci.
Du marié et de la femme.
Oui.
Le flash initial, c'est pas je veux me marier avec un tel, je veux me marier.
Non, alors, bonne question. Le flash initial,
je veux marier.
Bonne question. Le flash initial, c'est que avant de sortir avec cette fille-là, quand on l'a présentée, il y a un flash que je sens qu'il y a quelque chose.
Du tout.
Non, ça veut dire par rapport à ce qu'on m'a présenté, par rapport à ce qu'on l'a décrit.
Avant qu'on la présente, il y a déjà quelque chose.
Voilà.
C'est que j'ai envie de me marier, c'est ça le projet.
D'accord. Non, là, je parle par rapport à cette personne-là. Par rapport à cette personne-là. Au début, on l'a présentée, donc j'ai eu un flash général dans ma tête qui me dit il y a quelque chose. Ensuite, j'ai eu la phase de Bina dans laquelle.
Pas dans ma tête, dans mon cœur.
Non, ma tête.
C'est la description que t'as fait de cette femme-là.
J'ai pas de sentiment encore. C'est zéro ce que j'ai. C'est attaché par son physique, c'est walou, c'est rien du tout ça. Je parle d'un attachement, que je sens qu'on veut vivre la même vie. Que je veux partager ma vie avec elle et qu'elle et moi on ait la même vie.
Comment t'as quitté?
Alors, d'abord j'ai un flash général qui me dit il y a quelque chose. Après j'ai un développement dans ma tête qui me dit, vraiment, t'as eu un bon flash, c'est vraiment la bonne personne pour toi. Après, j'y réfléchis, que je me sens concerné. Et là, quand je me sens concerné, hop, on passe à la suite. C'est là qu'on commence à passer à, au côté droit, au côté gauche. Donc on a dit, reste pour
attirer. Tu vas te faire décider entre celle-là ou une autre.
Ah, ce qui va me faire décider, ça, c'est plus dans la tête. C'est qu'à un moment, il y a un flash qui me dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me dit, c'est par ici que ça se passe.
Moi, je pense que c'est dans le cœur.
Bien sûr qu'il y a le cœur. Le rabbi, il disait toujours, quand on lui demandait à partir de quand on va se marier avec une femme, il disait que on peut pas attendre avant le mariage d'avoir des vrais sentiments, mais il faut sentir un minimum de meshichat alev. Ça veut dire un...
C'est ce qui va te faire choisir A plus que B.
Voilà.
C'est pas la cerveau qui a
mais c'est encore, mais meshichat alev, c'est encore très, c'est très basique, c'est très très basique. C'est-à-dire qu'après, toutes ces choses-là qu'on a dit, toutes ces phases-là qu'on a dit, on va les retrouver dans la vie du couple. Les moments harmonieux, les moments de bonté, les moments de structure, le moment de victoire, le moment d'humilité, tout ça, on va le retrouver dans la suite du couple. C'est des phases qu'on retrouve, ça. Dans tout projet qu'on a, on retrouve ces phases-là.
Voilà. Mais t'es d'accord avec moi que l'an, c'est Chokma Binadat.
100%.
Quand on a Tachonen, on dit à Tachonen Adam Daat, on va mettre des noches Bina. On parle d'avoir du Daat avant de la Bina.
Parce que, on dit, que, étant donné que, en vérité, ce qu'il va expliquer dans la suite, c'est que le Daat, cette capacité d'être capable de se sentir concerné par une chose, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Parce que normalement, et qui te dit que tu vas te sentir concerné? Des fois, tu peux réfléchir, tu te sens pas concerné, ça te parle pas. Ce que je fasse, ça me parle pas. Ça, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comme Dieu donne ce cadeau, alors je dis à Akadosh Baruch Hu, aide-moi à faire les autres phases. Et comme j'aurai ces autres phases après et que je vais passer à la date, ça va marcher. Tu comprends? Parce que c'est une résultante des deux. Quand j'ai eu un bon Chorma et une bonne Bina, et que je me concentre ici, normalement, ça doit venir. Mais je peux pas sauter les étapes. Oui.